les jeudis douteux. Chaque jeudi à l'Atomique Café, 3606 rue Ontario Est. Chaque semaine, un classique de la TV du passé, un set de VJ invités et un film louche. Les jeudis douteux à l'Atomique Café. Apporte ton sourire et tes cousines, puis dis-leur que c'est toi qui paye parce que c'est gratis.
Ici Edgar Bory, là je suis ici, mais je m'en vais tout de suite chez nous pour écouter 70%. Je viens de découvrir l'émission, puis ça a l'air que c'est bien. Ben c'est le fun, je viens d'en vivre une, là, je vais aller écouter les autres qui s'en viennent ou qui sont passés.
Kidnapping, braquage et défécation impromptue. Et pour cette édition, tout en action, vos chroniqueurs, Tony Colin-Vallée, Florence Payette, Daniel Blas-Bouchard, Jonathan Simon et Étienne, ainsi que notre invité Tommy Garçon, en direct du Brouhaha à Montréal. Vous êtes à 72%.
Tu trouves ça douteux. Je le vois dans tes yeux. Que tu trouves ça douteux.
Accessible. Yeah. Salut tout le monde. Très content de vous avoir avec nous pour ce superbe 70% flanqué de Tommy Garçon. On peut l'applaudir tout de suite, s'il vous plaît. Oui.
Merci, merci.
Réalisateur Nouvelle Vague et tout, on va s'attarder un petit peu sur ton œuvre. Avant, avec Bruno, je veux parler un petit peu de la semaine que je viens de vivre parce que il se passe des affaires. Okay. Ouais, ouais, ouais. Je suis en train de changer d'emploi.
Oui?
Ouais, ouais. Là, à cette heure, je suis rendu au Q&A pour Outer Minds, la compagnie de jeux vidéo qui a fait l'excellent Tuber Simulator, inspiré de la vie de PewDiePie. Je sais pas si t'as essayé.
Oui, oui, je suis rendu genre level 19, là.
Ah ouais, hein, t'es pas pire. Tu me rajouteras, moi, c'est hashtag #HACHETAGUE.
OK, c'est ça.
C'est hashtag, c'est moi, ça. Toi, t'es-tu un joueur de jeux vidéo un petit peu?
Non, j'ai arrêté au Dreamcast.
Ah ouais, hein? Ouais. C'est une bonne console à laquelle arrêter, je pense.
C'est la seule que j'ai chez nous, là.
En plus, tu l'as gardé.
Oh, ben oui.
Conan, t'avais quel jeu à ça?
Crazy Taxi 1, 2, Shenmue. Ah, un, Shenmue, deux, qui est un chef-d'œuvre absolu, genre un des meilleurs jeux que j'ai jamais
Shenmue.
Vu.
Shenmue?
C'est malade, man.
Tu peux ouvrir toutes les portes d'armoire.
Shenmue, ben oui, c'est le premier jeu que tu peux ouvrir.
Il n'y a rien d'en haut.
Il n'y a rien dans aucune des portes que tu peux ouvrir.
Moi, je me rappelle, on jouait à Shenmue, puis on allait faire une journée de job, parce qu'il faut que tu trouves une job, puis là, tu transportes des affaires avec un forklift. Puis là, après ça, on allait à la machine d'arcade de Space Harrier, puis là, on jouait à Space Harrier pendant...
Ça, c'était trippant pour jouer à des jeux, des vieux
à
jeux de Sega.
Ouais, ça, c'était quand même assez concept. Mais là,
t'aurais pu aussi juste jouer à ces jeux-là à la place, tu sais.
Ouais, non, c'est sûr. Mais dans ce temps-là, l'accès était moins facile, je pense.
C'est ça, c'est vrai. Tout se downloadait pas mal moins à l'époque Dreamcast. Puis d'ailleurs, le Dreamcast était fait un petit peu pour aider les pirates.
Ouais.
Dans le sens que...
Moi, j'en étais un.
Ah ouais, hein? T'es...
Comme 200 jeux piratés, là.
T'as-tu comme la fibre informatique? Ah, t'as un tatou sur le bras aussi.
Ouais, c'est une phrase de Rocky.
OK.
It ain't about how hard you hit, it's about how hard you can get hit and keep moving forward.
C'est une phrase de Rocky Balboa. Balboa,
oui, il dit ça à son fils dans le nouveau, là.
Ah, ouais, c'est ça. Le 2006.
L'avant-dernier, là, mettons.
Oh, ouais, parce que si on continue Rocky. Le canon, le Rocky a battu un cancer. Il a-tu battu un cancer?
Alors, c'est un spoiler, là.
Ben, on sait pas, en fait, à la fin.
Ah ouais, on sait pas, mais ben, d'après moi, oui. Là.
On peut spoiler des films de 2008.
Ok, ça, c'est bon.
Vous nous le pardonnez.
Ouais. Ben ouais, c'est Rocky, c'est sûr qu'il a survécu. Là.
Ben,
sinon, ça serait de l'estime.
J'aime
là.
Ça, ton attitude.
Non, mais quand... Il a battu la Russie au complet. Là.
Il est allé convertir là-bas, il est revenu. Ouais,
ouais, il a battu Ivan Drago, c'est pas un petit crise de cancer.
C'est sûr. Voilà. Est-ce que tu penses que... Ouais, Ivan plus fort que le cancer, je pense. Je sais pas c'est quoi qui est arrivé dans l'univers de Rocky à propos de Ivan Drago.
Selon Stallone, il s'est suicidé. C'est ça que j'ai lu sur IMDb.
Ah ouais, rien que ça, hein.
Après avoir perdu contre Rocky, tu te
suicides. Contre un gars qui faisait le tiers de son poids puis deux pieds de moins, genre. Ouais, c'était quand même un excellent film. Fan de cinéma, on le sait. Tu viens de sortir quelque chose de nouveau, là.
Ben, dans le fond, moi, j'ai sorti un film. Ben, en fait, j'ai pas encore tout à fait fini. Là. Je l'ai envoyé dans les festivals. J'ai commencé à l'envoyer dans les festivals. Je l'ai envoyé à Hong Kong. Je l'ai envoyé en Angleterre. Je viens d'avoir la confirmation que ça a été accepté à Los Angeles.
Oh yeah, bravo, ben oui.
Je suis vraiment content.
Et puis ça s'appelle comment?
Dans le fond, c'est un film, merci. C'est un film qui s'appelle Rôle de soutien.
Oh.
Puis c'est un film qui est vraiment une espèce de changement radical dans ma carrière. Parce que le film que j'ai fait avant, je pense que je l'avais présenté ici deux ans, je pense.
Oui.
Puis deux ans bientôt. Puis c'était un film qui s'appelait Soirée de filles. Puis c'était un esti de film retardé que j'aime beaucoup. Mais c'est une bande de gars qui se demandent qu'est-ce qui se passe dans une soirée de filles, puis qui décident de l'infiltrer. Puis moi, ça finit mal, tu sais. Puis moi, je jouais un acteur de théâtre gay qui se déguisait en fille, puis qui aimait un peu trop être une femme.
Ouais, c'était toi qui étais infiltré.
Ouais, c'est ça. Puis c'était comme même dans la vraie vie, quand je tournais le film, je me suis rendu compte que j'étais anormalement confortable, ouais, à l'aise, en femme. Fait que je me suis posé un certain nombre de questions sur ma sexualité, mais là,
ça va. Tu t'es fait tatouer une phrase de Rocky pour régler ça comme faut.
Exactement.
C'est bon, ça. Puis sinon, joues-tu à Magic, vite fait, de même?
Non, du tout. Je joue à aucun jeu, en fait. J'haïs les jeux.
Sauf Shenmue.
Sauf Shenmue.
Oh, tabasse.
J'haïs les estis de jeux de société ou les jeux où je suis pas capable. J'haïs les affaires le fun, dans le fond. À part boire.
OK, c'est bon. Ça,
non,
ça
c'est vrai, mais j'aime pas le... J'arrive juste pas à comprendre...
Là, mettons, là, tu fais un party, puis là, il y a 6 personnes chez vous, puis il y en a 2 que ça lui tente de jouer à rien. Toi, tu dis, tant mieux, je suis un de ces deux-là.
Ouais.
OK.
Oh, ouais. Okay. Oh, ouais. Moi quand on dit, on fait des activités, j'haïs ça. J'haïs le mot activité, calisse que j'haïs ça. Des activités, esti, je veux juste boire. Ta gueule.
Esti, c'est bon. Et puis, la politique américaine, est-ce que ça te touche présentement?
Oui. Oui, oui. Oh, ouais. C'est sûr. Mais je suis pas quelqu'un de vraiment politique à la base, mais c'est sûr que tout le monde s'intéresse un peu à ce qui se passe. C'est quand même tellement fucked up que t'as pas le choix de t'en intéresser un peu. Mais je suis pas un gars vraiment politique non plus. Là.
Non. Toi, crois-tu aux Illuminati?
En fait, je sais même pas c'est quoi, cette affaire-là.
Ah, ben, slaguette.
On va pas en parler?
Ouais, t'es Toby 1.0.
C'est ça.
Est-ce que c'est toi qui fais le montage de tes films? C'est-tu quelque chose qui...
Ouais.
Est-ce que c'est important pour toi de passer par l'étape, mettons, parce que là, t'as écrit le film, t'as été acteur, tu l'as réalisé, puis là, tu te ramasses à le monter au bout.
Ouais. Ben, c'est que dans le processus de réalisation d'un film, honnêtement, je comprends qu'on peut-être pas avoir de talent dans le montage, puis ça, je comprends ça. Mais en tant que réalisateur, je ne comprends pas comment tu peux ne pas monter ton film. T'sais, parce que dans le fond, les règles du montage, ça prend quoi? 2 semaines? T'sais, c'est vraiment pas compliqué, là, dans un sens. T'sais, je dis la base.
Il y a des monteurs qui seraient pas d'accord avec ce que tu viens de dire.
Non, mais je sais, mais dans le sens que, t'sais, une fois que tu comprends la base, t'sais, après, c'est des années de raffinement. T'sais, mais t'sais, d'après moi, quand tu réalises un film, t'as besoin. T'sais, dans le fond, être réalisateur, c'est savoir une idée précise. C'est avoir une idée précise de tous les domaines. T'sais. Dans le fond, si tu veux être un bon réalisateur, à mon avis, tu n'as pas le choix de connaître tous les domaines.
Ouais, ouais, ouais.
Tu devrais être capable. Tu devrais pas être un extraordinaire dans tout, mais tu devrais te savoir.
Est-ce que tu vas comme aller sous-traiter pour des effets spéciaux, de la post-production? Ah, c'est sûr.
Okay. Ben, c'est ça, être réalisateur.
Mais là, tu vas être là, tu vas dire, moi, je veux que ça fasse ça comme ça, puis j'ai ma vision du plan, ça va faire ça.
Exactement,
comme ça.
Mais.
Est-ce que tu es du genre à faire des petits croquis, à dessiner?
Non. Non.
Fait que dans le fond, tu as ton découpage tout dans ta tête quand tu arrives sur la set.
Ben c'est ça, c'est comme tu sais, pour en revenir un peu à ce que je disais, dans le fond, c'est rapidement, c'est qu'un réalisateur, tu devrais être capable d'être pas pire dans tout. T'sais, tu devrais être capable d'être pas pire en prise de son, pas pire en montage, pas pire en éclairage. Puis là, tu prends du monde meilleur que toi dans tous les domaines pour achieve ta vision, tu sais.
C'est la stratégie de Dr. Savage, ça.
Dr. Savage, je sais. Il y en a pas un, hein, avec The Rock.
Ah ouais.
Ça va être cool quand même, mais ça va pas battre l'original. L'original, c'est quand même
Ouais, ben ça commence à
être un classique vieux, du tout.
Ouais, je pense que oui. Le premier Doc Savage, puis il y a vraiment comme une saveur érotico-action aussi là-dedans.
Ouais,
là,
c'est
comme Bob Moran, là. Tu sais, Bob Moran, il n'aura jamais de film tant que c'est Bill Ballantine puis que c'est pas Billy Ballantine, là, parce que ils prennent tout le temps, dans les dessins animés, ils prennent tout le temps la même chambre d'hôtel, là. Je veux dire, partout, là, ils se promènent, puis Bill puis Bob, ils dorment dans la même chambre, là, puis tu sais, ça... C'était comme écrit des années 40-50, fait que Hollywood aime pas trop ça. Tu sais que, d'ailleurs, il y avait un projet de faire un film de Tintin. C'est vieux, là, le projet de faire un vrai film de Tintin avec des vrais personnages. Ça date des années 70-80. Et les premières ébauches de scénarios qu'Hollywood ont proposé, Milou s'était rendu une fille. Parce que
c'était trop gay que ce soit un chien.
Ben.
Depuis quand un chien, c'est gay?
Non, c'est pas le chien qui est gay, c'est le manque de filles. Je
ah, pense. Ok, ok, ok.
Tu sais, à Moulinsard, là, ça se parle à l'impératif en pénis.
J'avoue que Tintin, c'est un peu. Il manque de femmes là-dedans.
Il était pas assez pas gay.
Castafiore, puis personne l'aime.
En bon français, ça manque de plate.
Ouais.
Non, mais come on. La seule femme qu'il y a là-dedans, c'est une grosse crise de chanteuse LED.
Puis en plus, tu peux plus te reproduire avec non plus.
Non, c'est ça. J'avoue que ça manque un peu de filles.
Ok, c'est mieux dit de même. Merci d'être avec nous, Toby. À partir de maintenant, c'est ton premier 70%, je pense.
Oui.
À partir de maintenant, il y a des chroniqueurs qui vont défiler. T'as un micro, n'hésite pas à t'exprimer. On est très content que tu sois avec nous. On va continuer à jaser. Sinon, ben pour l'instant, Toby Garçon, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Oui. Et puis là-dessus, on le passe la poque à nos... C'est incroyable, on a des musiciens sur l'orchestre. Excellent, Jocelyn Thérien et JF Cardinal, c'est capoté.
Yeah.
Merci, messieurs, on vous passe la poque, on commence avec un chroniqueur.
Badaboum.
Ça score tellement.
Ah, ça pose
c'est,
ça
fait combien de temps que t'as du budget de même, là?
Un mois, là. mettons du budget service.
Ok, c'est cool, man.
C'est du budget.
Ça rajoute du production value en esti, là.
Oui, ça, c'est vrai. Des beaux décors, puis tout. Puis Bruno, il met une cravate.
Ben oui. Alors, après avoir reçu une plainte téléphonique, la police s'est présentée à la maison de David Britton Maxwell de Colfax, en Louisiane. Le trouvant dans sa cour portant seulement une serviette de bain autour de la taille et tenant un couteau alors qu'il parlait aux arbres. L'homme de 26 ans a alors demandé aux policiers de l'assister puisque des hommes étaient dans ses arbres et des fantômes hantaient sa maison. Après avoir trouvé des drogues dans la maison, les policiers ont arrêté Maxwell pour sa possession de substances contrôlées.
Quelle surprise!
Oui, hein? Un homme de Half Moon dans l'État de New York a utilisé sa BMW afin de défoncer la clôture de la résidence d'un voisin pour ensuite défoncer la porte afin de sauver leur chien qui était menacé par un feu à l'intérieur de la résidence. Malheureusement pour lui et heureusement pour son voisin, il n'y avait pas de feu. L'homme faisait simplement un bad trip causé par du LSD et du sirop contre la toux. L'homme a été arrêté pour négligence criminelle et entré par effraction.
Minimum.
Ouais.
Oui, il est un peu entré par effraction.
Ils l'ont pas arrêté pour conduite en état d'ébriété parce qu'il est pas allé sur la route. Il est juste passé de son terrain au terrain de son voisin direct.
C'est peut-être son voisin qui va plus l'accuser de bris de propriété.
Ouais, c'est ça.
Il va avoir des suites. On a très hâte de le savoir.
Oui.
Puis il a l'air bon son LSD aussi.
Ben, il y avait du sirop contre la toux mélangé avec aussi. Hein, fait que,
un c'est truc, vrai, prenez des notes.
Ouais.
Yeah! LSD au raisin. Let's go, next!
Des hommes masqués et armés sont entrés dans la maison de Rogelio Andaverde à San Antonio, au Texas, afin de le kidnapper. La police a fouillé les parages avec un hélicoptère après que sa femme les ait appelés, mais n'ont pas réussi à le trouver. Deux jours plus tard, l'homme est revenu à la maison affirmant qu'il avait été relâché. Lorsqu'interrogé par la police, il est devenu évident que l'homme avait orchestré son propre kidnapping. Il a avoué qu'il voulait seulement passer un peu de temps avec ses amis. J'imagine que c'était la meilleure solution.
C'est sûr et certain.
L'homme a été arrêté pour fausse déclaration à la police.
Ben oui, c'est pas correct de faire ça. T'es mieux de dire je prends off puis je vais passer du temps avec mes amis. Là. C'est quand même ça revient souvent, ça. Les vols de dépanneurs puis les auto-kidnappings, c'est récurrent dans tes nouvelles.
Ouais, c'est vrai. C'est toujours une bonne idée.
Ben oui, c'est la meilleure chose. On l'a vu dans le documentaire Fargo.
Oui.
Qui est inspiré d'une histoire vraie.
Oui.
Qui est déjà arrivé.
Oui.
T'as-tu fini?
Je peux en faire une dernière.
Let's go, une dernière.
Un Britannique de 68 ans a été arrêté à l'aéroport de Brindisi, en Italie, après avoir déféqué sur la piste de décollage. L'homme aurait baissé son pantalon entre l'avion et le terminal pour se soulager. L'homme a été détenu avant d'être relâché devant payer une amende de 3 000 €. Aucun détail sur les raisons de son acte n'a été dévoilé.
Oui, c'est vraiment là.
T'as pas besoin d'une raison pour chier dans un aéroport sur la piste, là. Moi, j'ai jamais besoin d'une raison, là. Tu le fais, c'est top.
C'est ça, mais il s'est dit, je vais être le premier à le faire, là. Je peux pas passer ça, t'sais.
C'est ça, ben là, on
c'est
en parle
aujourd'hui. C'est son bucket list, tu sais, peut-être, ou...
Ouais, c'est ça. Donc...
Là, il a réussi, là, on en parle là.
Ouais, c'est vrai. Ben, on a parlé souvent de ça, c'est pas... Peut-être qu'il a réussi.
C'est pas parce que tu fais quelque chose.
Pas parce qu'on
que c'était une bonne idée.
Ouais, c'est ça. Puis c'est pas parce qu'on en parle que t'as gagné.
Non.
En tout cas, merci beaucoup Bruno. On va t'en voir dans l'émission. Toi, ça va bien, Adam?
Ah, oh, super bien.
Ça va super bien. On passe au prochain chroniqueur.
Jette en tabarnak!
C'est ça! C'est ton tunte. Hey, hein,
tabarnak!
Ta blonde t'écoute, là, puis elle pense à toi.
Ouais. Alors, déjà, reviens aussi. À soir, Tommy, je m'attaque à ce que je crois être le plus grand énigme des 35-40 dernières années au Québec. Petite mise en situation, je suis quand même un jeune papa et pour moi, la question du père absent, c'est quelque chose qui me trotte un peu dans la tête ces temps-ci. Je suis un peu soucieux de ce que je présente à ma fille comme émission de télé. Puis ces temps-ci, on y présente beaucoup les passe-partout. Puis il y a un personnage en passe-partout qui vraiment me questionne beaucoup, c'est Madame Coucou. Alors, c'est quelqu'un qui est, pour moi, énigmatique au plus haut point. En fait, Madame Coucou, ce qui est bien, c'est qu'elle présentait un modèle de femme qui n'était pas traditionnelle. C'est la femme célibataire, mère monoparentale, etc.
Elle n'était pas mère.
Ben oui, Cachou Coucou.
Oui.
Cachou, ben oui.
Madame Coucou, elle avait un enfant qui s'appelait Cachou Coucou.
Elle a accouché pendant, malgré que ce soit une marionnette, effectivement.
Marionnette, OK. Puis, ben, ma question, en fait, c'est qui le papa de Cachou Coucou? On le sait pas, c'est qui le papa. On peut juste faire des suppositions, puis à soi, j'aimerais ça qu'on essaie de, au moins, avoir des hypothèses fortes.
Ça.
Je pense pas qu'on va régler ça, mais si on arrive à une bonne hypothèse, je pense qu'on peut
est-ce
régler
qu'on
la question.
Droit, est-ce qu'on a le droit d'aller, mettons, de marionnette à vraie personne? Est-ce que ça pourrait être André, le père de Cachou?
Ben, disons, je vais mettre les limites. Hein. Je pense que pour c'est commencer, bon. On va rapetisser un petit peu l'espace des possibles.
Au début, tu as dit le plus grand mystère du Québec. Je pensais, pourquoi Saint-Hubert, ça a pogné? Genre, c'est du poulet frit standard, bien trop cher. Pis...
Ça, au moins, c'est nourrissant. Mais sinon, peut-être en troisième position, ton Saint-Hubert. Peut-être pas en premier. Là. Non, je pense que Madame Coucou est quand même beaucoup plus forte parce que c'est une icône. C'est tout le monde se réfère à ce personnage-là tout le temps. Je dis n'importe quoi, puis c'est correct de même.
Moi, je la connais pas.
T'en connais pas? Ben, Madame Coucou, en fait, c'est ça. C'est que t'avais Perlin et Perline, les deux enfants Cannelle et Pruneau, puis sa voisine, leur voisine, c'était Madame Coucou qui arrivait toujours à l'improviste, puis elle s'appelle de même parce qu'elle arrive toujours à la maison en disant « Coucou, c'est moi! » Puis elle ferait jamais frapper la porte, tu sais, elle rentre chez le monde de même, puis elle est vraiment le fun.
OK.
Madame Coucou, en fait, on va se limiter aux marionnettes pour essayer d'y trouver un copain. Mais première chose, c'est qu'avant de répondre à la question qui est le papa de Cachou Coucou, il y a une question encore imbriquée dans cette énigme-là, c'est qui Madame Coucou? Parce qu'on ne sait vraiment pas ce qu'elle fait dans la vie, cette femme-là. Première chose, ça a l'air d'être une matante de 50-60 ans, de manière qu'elle est habillée, les cheveux rouges, frisés, courts. Elle aime faire du tricot puis aller au bingo.
La coupe boule de feu.
Ouais. Elle a déjà été coiffeuse, mais ne l'est plus. Puis d'ailleurs, quand on regarde l'épisode dans lequel elle fait une coiffure à Perline, puis elle y botte ça d'aplomb, on comprend pourquoi elle ne l'est plus.
C'est comme un afro. Elle
a... Perline avec un afro noir, genre. Là, t'as les enfants qui sont. J'aime pas ça, comment t'étais. Non, j'aime pas ça.
Ah ouais, t'as lu ça dans leur visage.
Non, ben, tu sais, c'est clairement dit, là. Ça bitch, là, la coiffure, là, à chaque fois. Bref. Ça, on a Madame Coucou qui a de l'air d'être une personne même assez âgée, mais elle ne peut pas être si âgée que ça. Parce que si on la compare à d'autres personnages, comme Grand-Papa B, qui a l'air d'avoir 70-80 ans avec ses bouts de poils blancs, mais qui est quand même quelqu'un qui travaille dans une animalerie et qui est veuf. Bref, il ne peut pas avoir beaucoup plus que 55 ans. Il n'est pas retraité encore.
Grand-Papa B?
Grand-Papa B, dans ce moment-là...
Bisexuel, genre?
Non. Ça, c'est la joke qui a été surfaite que je voulais pas faire ce soir, mais je suis content que tu la dises. Comme ça m'évite de...
Non, mais attends, tu connais pas Passe-Partout, pour vrai?
Non, man, j'ai
cet enfant n'a pas eu d'éducation.
J'ai tout le temps trouvé ça terrifiant, en fait. Je m'excuse.
C'est pas faux. Il y avait des carrières.
Non, ben, c'est parce que ce qui te terrifiait, c'était peut-être la version des années 90, pis ça, ça n'est jamais arrivé. OK?
C'est comme les prequels.
C'est comme les prequels. Bref, madame... Coucou, à ce moment-là, peut pas avoir beaucoup plus que 40 ans, en fait, parce que d'un, elle est sûrement plus jeune que Grand-Papa B, et de deux, parce que Perlin et Perline, ben, qui ont des enfants et ils ont du travail et tout, c'est pas des gens très vieux. À cette époque-là, avoir le premier enfant à 30 ans, c'était pas très, très legit, OK? Fait qu'on dirait qu'ils sont plus dans vingtaine, fin vingtaine.
Oh oui, c'est sûr.
Ben, coucou, t'es un petit peu plus vieille qu'eux autres, fait que je la placerais soit 35, 40 ans.
Ouais,
pas
moi
plus.
Aussi, 35, 40.
Pour avoir un enfant, c'est limite, pis c'est correct. Ceci étant dit, bon, ça limite à peu près.
Biologiquement parlant.
Ouais, biologiquement parlant. Ça. Mettons qu'on la situerait là-dedans, c'est juste qu'elle a des goûts de vieux pis de ma tante, pis c'est correct aussi, on respecte ça. Bref, ça réduit quand même les possibles à ce moment-là. Puis aussi, deuxième caractéristique de même coucou, c'est qu'on sait pas c'est quoi son travail, comme je disais tout à l'heure. On sait qu'elle a déjà été coiffeuse, mais c'est quelqu'un qui travaille probablement à la maison. Fait faire des balles de laine aux enfants de 4 ans, c'est comme du cheap labor avant le temps, c'est le fun, on aime ça. Puis, alors, on n'a aucune idée ce qu'elle fait en dehors de ça, à part de jouer au bingo, puis prendre des cours de tissage. Bref, c'est probablement pas quelqu'un sur l'assistance sociale. Elle a des activités, c'est correct de même, mais...
Toi, t'étais chez vous, t'écoutais ça, puis là, t'as fait « Attends un peu, là », puis t'as sorti un pad, puis t'as commencé à prendre des notes.
OK, je vais mettre un peu de contexte autour de tout, là. Quand t'as un enfant, t'écoutes la même affaire très souvent. Fait que j'ai eu le temps de réfléchir en masse à même petit coup, c'était assez matin.
Ça me va.
Ça a passé une bonne partie de mes soirées ces derniers mois, OK? Mais bref, donc c'est quelqu'un qui travaille probablement à la maison et qui dit femme à la maison qui travaille, dit peut-être pas légal.
Ben même ailleurs, je veux dire, il y a tout le temps.
Je pense que j'ai l'impression que je sais où est-ce que tu t'en vas. Je suis un peu inconfortable.
Ouais, moi aussi.
Ça va me prendre une bière.
Genre.
Bière pour Bruno, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu prends, Bruno?
Genre qu'elle fraude le BS, là. C'est ça que tu veux dire?
Non, mais tu sais, je pense qu'elle est bien ouverte comme personne, puis qu'il y a des gens qui viennent chez eux de temps en temps. Pis... C'est plus dans ce genre de personnes-là.
Okay? Puis, anyway, quand elle garde pas, les enfants sont pas chez eux, il n'a pas d'enfants.
Ouais,
chez eux.
Ouais. Ben, bref, ça amène à la question de base, qui est le papa de Cachou Coucou? Bon, on peut passer en revue les différentes marionnettes de l'émission pour voir qui c'est qui serait le plus bon candidat. Bon,
Tibrin, même.
Le papa de Tibrin. Le papa de Tibrin, même s'il n'y a pas de marionnette associée, on sait que c'est quelqu'un qui probablement fait beaucoup d'argent parce que Tibrin, il est swag en tabarouette dans l'émission. Il y a un costume à un moment donné, c'est écrit Beau Pitou en arrière, avec un beau chapeau noir. Je veux dire, il était vraiment le petit bébé gâté, mais qu'on dirait que les parents ne sont jamais à la maison. Ce qui fait quand même potentiellement pour un papa qui irait s'amuser à droite à gauche et qui ne s'occupe pas de son enfant. Moi, je mettrais un bon 20% de probabilité derrière le candidat papa de Tibrin. On pourrait aussi parler des frères virgule et guillemets, qui sont les deux gardiennes d'enfants de l'émission. Il y a un problème avec ça, c'est qu'un des deux frères n'a jamais rencontré Madame Coucou avant qu'elle ait son enfant. Donc, on peut en éliminer un d'emblée. De ce qu'on sait.
C'est ça.
Pis c'est lequel des deux? Est-ce que tu t'en rappelles?
Je pense que c'est virgule.
Mais, tu sais,
je l'aime pas, lui.
Ben, ça laisserait guillemets comme option, puis, ben... peu probable, je mettrais un 5% juste pour être sûr.
Okay,
on peut
bon.
Pas l'écarter.
J'aimerais bon. Tellement connaître Passepartout en ce moment. Là.
Ben, je sais que tu vas aller te pogner les coffrets après ça puis tu vas t'amuser. Ça.
Mademoiselle.
Dernier personnage que je peux comprendre, en fait que je peux voir comme étant un bon candidat, parce qu'on s'entend que les marionnettes masculines dans cette émission-là, il n'y en a pas des tonnes. Ils en ont rajouté dans les générations subséquentes, mais dans la première génération, à part ça, il y avait Grand-Papa Bi, bon, on l'a mentionné tantôt. Les chances que ce soit lui... Bon, okay,
mais t'as dit veuf. Tantôt qu'elle aimait les affaires de vieux, tu sais.
Il aimait les affaires de vieux, c'est il est bon veuf. Point. Ouais, OK, il y a un commerce, puis tout. Il est là souvent, mettons, 20% de probabilité.
C'est okay? Bon, c'est bon.
C'est bon. Mais pour ce qui est de l'âge, je pense qu'il y a un gap. Je ne sais pas s'il serait capable de se reproduire encore. Dernier candidat qui, je pense, selon moi, est le plus probable, c'est Perlin. Bon, Perlin, qui est son voisin de palier.
Ben oui.
L'âge n'est pas très différent, ça va bien. Puis à un moment donné, dans l'émission, il tombe sur le chômage. Il a pas du temps à raison.
Puis on sait que l'autre fait juste rentrer.
Puis l'autre, a fait juste rentrer et dire « Coucou, c'est moi! »
C'est ça, ouais.
Donc, selon moi, le contact étant fréquent, ayant beaucoup de temps libre... pendant que Perlin n'est pas là et qu'elle est au petit dépanneur du coin, là où elle travaille, je dirais que ce serait probablement le meilleur candidat pour le papa de Cachou Coucou et je lui donnerais une probabilité d'au moins 35 à 40 à ce moment-là.
C'est ici que vous l'avez entendu.
C'est ici que vous l'avez entendu, mesdames et messieurs. On ne reparlera plus jamais de cette question-là. Merci.
Merci.
Bonne soirée.
Tommy Collin, yeah! Mesdames et messieurs. Ça, c'était capoté, hein? On avait vraiment un survol. J'ai comme envie de retourner les écouter, moi aussi.
Moi, je vais m'être tapé pour la première fois, là. Moi, j'ai aucune idée.
Tu vas avoir moins peur. On me dit que le VJ, ce soir, on va en avoir dans la playlist.
Ici Carl Le Cacharet, vous écoutez 70%.
Bonjour, ici Madame Cousineau. Moi, les pétrolières, j'en ai plein le cul. C'est pourquoi j'utilise du Botafol. Il me pogne une bonne grosse canne à 20$. Je sacre ça dans mon huile de moteur et ça me dure toute l'année. Ça me fait économiser des centaines de dollars que je peux investir dans ma nourriture. C'est des centaines de dollars qui ne vont pas dans les pétrolières. Écoutez, c'est pas mêlant, j'aime tellement ça le Tofoil que j'en colisse même dans ma friteuse pour me faire des bonnes patates frites. Oh, c'est bon ça. J'aime ça Tofoil et je m'en commande sur Tofoil.ca. Merci, bonsoir.
Tofoil.ca, ça te dérange les pétrolières.
Okay. C'est sûr et certain, faut y retourner. Ça va bien encore pour toi?
Oui, ça va bien.
On est prêt pour le prochain, messieurs. Sacré Damien.
Salut, allô, étranger. T'es un esti malade, toi.
Toi, t'es popé.
T'es popé pantoute. Bon, ben j'espère que ça va bien. C'est la première fois que je connais les trois personnes sur le stage en même temps. Non, c'est pas vrai, Jean-Michel, je le connaissais aussi.
C'est vrai, c'est vrai.
C'est un de mes contacts. Mais là, je suis content. Ça paraît pas que je lis mon texte, mais pas tant que ça. Mais je suis heureux. J'ai tout ce dont j'ai de besoin. Hier encore, j'étais triste. Je me disais, bon, ben, je vais regarder de la porn. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui regardent la pornographie?
Wouh! Juste MILF.
Je le savais, les seuls qui ont osé dire oui sont des hommes. Non, je m'excuse, j'aurais pas dû dire des hommes, j'aurais dû dire des ados de 18 à 64 ans. Nous, les ados, on a besoin de regarder de la porn. On en a de besoin comme le peuple américain a besoin de Jésus. C'est-à-dire, pas du tout. Parce que comme Jésus, la pornographie est quelque chose d'inventé par les femmes, mesdames et messieurs, pour contrôler les hommes. Vous me croyez pas, vous pensez que je dis juste ça juste pour vous choquer. Eh ben non, je dis ça non seulement parce que je le crois, mais je le crois parce que c'est la vérité, parce que c'est prouvé. La vérité, pensez-y. Marie, la mère de Jésus, est pas allée voir son mari en lui disant « Eh ben, Joseph, c'est arrivé pendant que je faisais la lessive. Un ange est arrivé par en arrière, puis là, sans que je puisse réagir, il a soulevé ma robe, puis il m'a inséminé en esprit avec son pénis invisible. » Non, mesdames et messieurs! Un jour, elle est venue voir Joseph en train de gosser une boîte à pain sur son banc de scie, puis elle lui a dit « Joseph, j'ai fourré avec un gars avant qu'on se marie. » Puis c'était la meilleure baise de ma vie. Pauvre Joseph, il savait pas quoi faire. Non seulement la femme qu'il aimait, elle avait cocufié, mais en plus, elle promettait d'aller le dire à tout le monde si jamais il était pas d'accord. De nos jours, ça serait pas trop grave, mais à l'époque, on sait à quel point les gens admiraient le type femme forte. Joseph avait tout de même besoin de préserver l'image de sa virilité. Marie a fait ce que toutes les femmes font avec les hommes. Elle l'a manipulé. Si t'es pas d'accord, je vais aller voir les prêtres, puis les gens vont me lapider, puis ça va être de ta faute. Gna, gna, gna. Joseph, lui, c'est un bon gars. Pas question de laisser la femme qu'il aimait faire sa vedette. Selon les experts, sa résolution a été motivée plus par l'amour que par la fierté. Fait qu'il a fini en Égypte avec la bonne femme pour se cacher jusqu'à temps que son fils atteigne l'âge de 12 ans. Et quand le spectre ultime de la puberté est venu annoncer à Jésus sa mission sur Terre, Marie, sa mère, lui avait déjà expliqué depuis longtemps que Joseph, eh ben, c'était pas son père. Parce que Joseph était trop niaiseux puis trop empoté pour lui donner du plaisir. Ça fait qu'à 12 ans, Jésus avait déjà su que son présumé père était un moins que rien et que là-haut dans le ciel existait un père céleste. Tout-puissant, qui l'amènerait un jour à devenir un opposant politique au point que l'autorité en place serait obligée de se débarrasser de lui. Mais ça, c'est une autre histoire.
Là où je voulais en venir, c'est que les femmes ont inventé la pornographie comme la religion, pour contrôler les hommes par le sexe, comme ça a toujours été le cas. De là vient mon illumination en regardant de la porn. Que la femme est à la fois le berceau de toutes les tentations et la seule source de salut en ce monde, et que les hommes, dotés d'un être incomplet, sont littéralement soumis à la femme comme un esclave à son maître. Et c'est très bien comme ça, c'est parfait! Parfait. Personnellement, j'arriverai jamais à vivre dans un monde où les hommes contrôlent le sexe parce qu'on est comme des adolescents de 14 à 64 ans. Nos pénis... Nos pénis sont des champlures à sperme avec le gasket de lousse. Techniquement, et encore une fois, c'est prouvé, les hommes aussi sont aussi peu capables de dire non qu'un ange a besoin de regarder de la porn. Et si Joseph avait vraiment engendré Jésus, ça aurait été dans un moment par rapport, genre sur une corde de bois pas encore gossée, avec l'âne qui regarde à côté, on sait pas pourquoi. Non, ça prenait un ange pour faire la job comme du monde, parce que seul un ange était capable de choisir le bon moment pour faire ça avec érotisme. Les hommes sont incapables d'érotisme parce que l'érotisme est chez eux comme de l'air à respirer. Seule une femme est capable de retenir son souffle assez longtemps pour créer le bon moment, la bonne perspective, comment se placer pour attirer l'attention, les choses à dire pour se rendre juste assez cochon, sans que ça paraisse qu'on est effectivement en train de fourrer, mesdames et messieurs, parce que fourrer, c'est quelque chose de vulgaire, dépourvu de poésie. C'est le choc brutal de deux corps éperdus, incapables de fusionner autrement qu'en se frottant comme des coquerelles. En terminant, pour ceux qui ont trouvé mon discours effectivement long et gênant, ne vous gênez pas qu'à vivre... Que... Sorry, je recommence ma phrase. En terminant, pour ceux qui ont trouvé mon discours effleurant, gênez-vous pas pour qu'on vive dans une société laïque, parce que la religion n'a jamais été aussi présente que maintenant. Pour ceux qui ne sont pas d'accord, voici un exemple. Lorsque je me sens seul, dépourvu de substance, et que mes doigts gourds glissent insensiblement en égrenant les boules de mon chapelet, je vais se serrer Internet, fouiller dans le livre sacré, et alors j'entre en communion avec le divin, avec la part féminine de mon âme, et je jouis. Je jouis en même temps que cette prêtresse montée sur le godemichet doré de l'autel et qui entre dans la transe salutaire en prononçant ces mots « Oh God! Oh my God! Oh my God! »
Wow! Damien Blaise-Bouchard, mesdames, messieurs!
Wow, c'est de la poésie, hein?
Ah, il est fort,
c'est écœurant.
Vous pouvez suivre Damien sur le Superflux, une émission au CISM à chaque semaine.
Bravo, Damien.
C'est quoi qui gossait, Joseph? Une boîte de Kleenex?
Une boîte à pain.
Une boîte à pain.
Ouais, comme, ben oui, comme mon surnom quand j'étais petit, Bruno Corbin, la boîte à pain.
Ouch. Oh.
Ouais, c'est méchant, hein?
Ça a rappelé, c'est pour ça que tu t'en es rappelé. Ouais, toi, ça trigger ça, encore ouais, quelque chose. Ouais. Il t'appelait comment, toi, quand t'étais jeune?
Ben, Toby le chien, là.
Ah, t'es assez jeune pour avoir été associé.
Mais Toby, ouais. Okay, Toby, ouais. Chien, le joueur étoile.
Ça, moi, j'aime bien gros ça, les films de chiens.
Ben, je sais, j'ai vu j'en ton ai, analyse. T'as regardé les films de chiens qui existent?
Je l'ai vu en tabarnak. Puis, c'est quel ton Toby préféré? T'en as-tu un préféré?
Moi, j'aime bien celui qui joue au baseball. Parce que je trouve que c'est le moins réaliste.
Effectivement,
c'est pas faux,
la
c'est
swing
pas faux.
Du coup, là.
Parce que moi, ce que j'aime dans le cinéma, c'est le réalisme social. Puis quand j'ai vu ça, je me suis dit, il y a un fuck dans
ouais,
toute la conception.
Quelque chose qui jump, là.
Moi, un de mes rêves dans la vie, là, c'est de faire une version réaliste de Toby qui joue au baseball. Parce que, tu sais, dans le film, j'étais comme, OK, il y a un bat dans la gueule, puis il frappe une balle. Mais imagine ouais. En vrai que ça donnerait. Ça serait fucking gore. Toutes ses dents seraient arrachées. Moi,
c'est
on est là pour parler de ma carrière, mais ça, c'est un de mes buts, je vous dis tout de suite. C'est faire une version réaliste de Toby.
On va être avec toi. Moi, je vais te suivre. En tout cas, je te souhaite le maximum de films de chien.
Tu seras producteur.
On va être là. On passe au prochain, s'il vous plaît.
Continuellement épaté par la part musicale.
C'est incroyable. Merci, messieurs.
Yeah! Oui.
Cardinal et Terrien.
Oui. Hein?
Comment on appelle ça? Le duo CT, genre? Cardinal Terrien pour vous. On va trouver de quoi. Florence, bon. S'il te plaît.
Oui, ben, bonsoir.
Bonsoir.
Bon, ben, contrairement à mes chroniques de d'habitude où je parle de films que je vois pour vous et que je vous dis si vous devez aller les voir ou pas.
En général, c'est non, hein?
En général, c'est pas mal un...
Ouais, OK, c'est bon.
Ben, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un vent de fraîcheur et de vous parler de mes rêves qui sont tout comme les films qu'il faut pas qu'on aille voir. Fait que j'ai trois styles de rêves pour vous. Un film de guerre, un film romantique, puis un film de sport.
Oh!
Parce que oui, ça m'arrive, puis ils ont tous des acteurs dedans.
On te laisse aller ou il faut choisir quelque chose?
Non, vous pouvez choisir.
OK, ben moi, je choisis que tu y ailles selon ton plan.
Oh, ouais.
Excellent.
Une chance qu'on l'a demandé. Hein?
Ben non, mais je sais pas, je pensais que c'était une chronique dont nous sommes le héros. Pis,
Pour une autre chronique.
Vas-y.
Alors, moi, dans la vie, je suis designer graphique, puis mon bad job dans la vie, c'est de faire des formations en ligne. Fait que pour une formation en ligne, j'ai rêvé qu'on allait devoir faire un tournage avec Keanu Reeves en Corée du Sud. Puis soudain, la guerre entre la Corée du Nord puis la Corée du Sud a éclaté. Puis c'était une guerre de drones. Fait qu'il fallait qu'on continue le tournage sous les balles, avec des drones qui nous poursuivaient partout. On a perdu 2 ou 3 perchistes, 2 caméramans dans l'aventure. Puis finalement, on s'est rendu compte que la seule affaire qui calmait les forces ennemies, c'était Keanu Reeves qui leur parlait du programme sur lequel on faisait le cours de e-learning.
C'est excellent.
Fait que dans le fond, ils voulaient vous empêcher de finir votre formation visuelle parce que c'était pour détruire leur force de guerre.
Hein? I wish si seulement. Mais non, finalement, c'était juste comme on était au mauvais endroit, au mauvais moment. Il fallait qu'on court partout.
Toi et Keanu Reeves.
Moi, l'équipe de tournage et Keanu Reeves.
Okay.
Ben, c'est quand même cool d'être avec lui. Là.
Bogus, dude!
Ouais, mais tu sais, Keanu Reeves a 52 ans qui court partout et qui explique là, non, mais il faut que tu cliques sur la petite fenêtre à droite, il faut que tu fermes la fenêtre. Super écœurant quand même.
Ouais, c'est un beau rêve. On passe au deuxième.
Au deuxième. Alors, le deuxième, c'est je rêvais que je jouais dans un film de style drame romantique des temps modernes avec Meryl Streep dans le rôle principal, la fille ingénue / héritière d'un empire financier, c'est-à-dire la princesse naïve, et Paul Rudd dans le rôle de l'amant qui n'est pas supposé être avec elle. Fait que 2 points, c'est quoi son personnage? C'est un petit bum au cœur d'or. Un peu casse-cou au passé criminel et pas glorieux. Bref, clairement pas de la classe sociale de Meryl Streep. Puis le père de Meryl Streep était pas d'accord avec leur union, of course. Ça fait qu'il l'a enfermé dans une tour qu'on appelait la tour de la bourse. Puis elle pouvait plus sortir de là. Puis mon rôle là-dedans, j'étais la meilleure amie de Meryl Streep. Puis je disais, comme la fameuse morale de Disney, là, genre, faut suivre ton cœur. La vie est trop courte. Le pire qui peut s'arriver, c'est que ton père te mette pas sur le testament. Mais tu sais, qu'on est au 21e siècle, puis une fille fera bien ce qu'elle voudra. Tu sais, YOLO. Puis finalement, spoilers, elle se fait tuer par une flèche en tentant de rejoindre Paul Rudd à cheval. Il y a un arrêt sur image. Il y a Paul Rudd qui la retient de tomber. Il y a une musique triste puis il y a un end credit. J'avais de la musique puis des
t'avais
end credits.
T'avais des end credits dans ton
dans
rêve.
Ton rêve.
Des end credits dans mon rêve.
Dans ton rêve du film que tu joues, que t'étais un personnage.
J'étais
dedans.
Un personnage dedans.
Un personnage.
Comment ça se fait que les end credits étaient comme à l'envers, genre?
Non, non.
Tu c'était... les voyais passer en avant de toi, mais parce que t'étais comme dans le film?
Même
ou...
pas. Non? J'étais comme spectatrice et actrice dedans. C'était
il y avait-tu des bloopers après ton générique?
Oh, j'aurais aimé ça. Ça aurait été
cool. Non, j'étais déjà en graphisme. Là, tu devrais faire du cinéma. C'est écœurant. Je suis crissement investi en ce moment. Là.
Yeah, tu financeras mon prochain film.
OK. Ben, j'ai pas d'argent.
Je sais pas si Meryl Streep a fait encore des films, par contre.
Ben oui.
Bon, tant qu'au capable.
C'est un prochain Oscar, Meryl Streep.
On fera ça en CGI, sinon.
Why not, peanut? En tout cas, ça me laisse penser. Ce rêve-là me laisse penser que, 1, ma conception des temps modernes est assez féodale, finalement, puis que, 2, je sais pas trop ce que je dois comprendre, s'il faut que j'arrête de donner des conseils parce que ça tue des Meryl Streep. Mais bon, je donnerai pas de conseils ce soir. Alors, mon troisième rêve, c'est un film de sport. Puis j'ai rêvé que je faisais des compétitions de sport avec les gars de The Resellers. Alors, je vais name-dropper des personnes. The Resellers, c'est 2 gars qui décident de faire des vidéos sur YouTube. Vous pouvez aller les voir. Je les ai rencontrés une fois, puis j'ai rêvé 2 autres. Fait qu'il y avait Giz qui faisait des plongeons. Jérôme qui faisait de la course à bateau. Puis moi, du surf. Puis notre but, c'était d'impressionner le coach de notre équipe qui était interprété par Samuel L. Jackson.
Pas facile!
Pas facile. Ben justement, il y avait comme un air de beurre, puis il nous disait de nous fixer un but, tu sais, pas gros, mais juste assez pour qu'on puisse le réussir pour être intégré dans l'équipe olympique.
Est-ce que tu te rappelles t'être fait dire « motherfucker » par...
C'est sûr.
Par plusieurs fois.
C'est sûr qu'il y avait un gros speech, là.
Oui, c'était juste que... Ben, il était écœuré qu'on l'écœure pour rien parce qu'on était juste pas bon. Puis il a fait comme « Ah, fixez-vous des buts, hein, motherfucker » puis des choses comme ça. Fait que finalement, on a décidé de se fixer des
il
buts
a abandonné.
Super... Il nous a donné juste le petit kick pour qu'on fasse comme on a honte de ne pas faire l'équipe, faut qu'on la fasse. Fait que le but de Guise qui faisait des plongeons, c'était de sauter et non pas de plonger du tremplin de 5 mètres parce qu'il avait peur. Jérôme qui faisait de la course à bateau, c'était d'avancer en ligne droite. Puis mon défi, c'était de me tenir debout sur une planche de surf. Puis on a réussi à faire l'équipe.
Ça a l'air plate, ce film-là.
Ça a l'air pas pire.
Le montage d'entraînement fade. Là.
C'est beaucoup d'échecs et beaucoup de cris et de pleurs. Puis finalement, on était toutes fiers. On est allé voir Samuel L. Jackson. Puis on avait été comme, hey, on a réussi nos buts. Puis il était vraiment pas impressionné. Puis il nous a dit qu'on n'avait pas d'allure.
Finalement, c'était un homme lézard.
Oh non! Non, c'est encore plus plate que ça. Finalement, on était tout triste, puis on a demandé à ton cousin Andy genre de venir nous remonter le moral, puis il est venu nous chercher en char volant aux allures du quartier chinois de Montréal. Puis pour nous remonter le moral, il a fait des wheelies à travers la ville, puis on lui a dit d'arrêter parce qu'on avait mal au cœur.
Ça peut pas continuer longtemps. Là.
Non, c'est fini comme ça. On s'est réveillé avec un. Mais je me suis réveillé avec un mal de cœur.
Un char lui. Aux couleurs du quartier chinois.
Non, non, avec la forme du quartier chinois de Montréal.
Okay.
Ah, c'est un rêve.
Oui, c'est ça, ça arrive.
J'ai pas de budget CGI comme ça.
Merci beaucoup, j'aime ça ta nouvelle twist.
C'est bon.
Fini là-dessus. C'est cool.
Ben, le finir là-dessus, c'est que juste pour que vous sachiez, je prends rien avant de me coucher. Juste de l'eau, puis c'est ça que ça donne. Fait que arrêtez pas de voir des films, c'est ça que vous allez rêver.
Et voilà. Yeah. Merci beaucoup, Florence, mesdames, messieurs. Tu vas la chercher où, ton inspiration, toi, Monsieur Garceau?
Ben, ça dépend. Ça dépend.
OK, on passe au prochain. Hey, j'ai pas besoin de me pencher sur ce micro-là. Ah. Oh. Il est beau.
Oui, on va voir s'il tient. Et voilà, salut Étienne.
Salut Tommy.
Comment ça se passe-t-il?
À date, ça va bien, mon 70%.
Ça va bien, mais toi, c'est pas ton premier. Tu viens nous parler de...
Non, je parle plus.
OK.
Je fabule.
Oh.
Je suis le fabuleux Étienne. Je
fais des fables. Parce que tu fais des fabules.
Je fais des fables.
OK.
Une main d'applaudissement, s'il vous plaît.
Bruno est impressionné.
Ça va bien, Bruno?
Correct, là, tu sais.
T'as de l'air surpris?
Ben, je savais que t'étais là, j'ai dit ton nom tantôt pis tout.
Parce que je respire la confiance tout à coup?
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça m'arrive pas souvent.
T'as écrit un texte?
Plusieurs fois.
Ok, c'est bon.
Fais
je vais faire un segway pour que tu commences à le lire, là. Okay, c'est bon.
Musique, merci. L'or du nain. Un nain toute l'année piochait, tant et si bien qu'il s'emmerdait. L'or, les pierres et autres richesses n'arrivaient plus à combler la solitude et la tristesse. J'ai bien mérité des vacances, hostique, de ce maudit trou, il faut que je m'extirpe. Il déposa ses pioches et ses pics et se rendit compte qu'il avait la trique. Son trésor, il emballa, à la surface, il remonta. Sur l'aventure, il mit le cap, avec pour but de se soulager la grappe. Au loin, il aperçut une caravane, conduite par la plus grosse des madames. Une carriole chargée à rabord de putes, plus cassé pour soulager tous les hommes en rut.
Le nain se planta au milieu du chemin. Par sa prestance, arrêta l'équipage de putains. Son ceinturon, il défie. Et ainsi, tous aperçurent son énorme zizi. La maquerelle fut attendrie. Non pas par la bourse du nain qui entre ses jambes pendit, mais bien par celle qui, sur le sol, l'or répandit. Elle offrit alors au nain des coquines, soupes et plantureuses. Mais ces riens n'avaient rien à faire de ces formes généreuses. Du regard, il fit le tour de la boutique. Hélas, dans la mine, il avait développé des goûts exotiques. Il fit taire l'entremetteuse. Écoute la grosse, si c'est mon or dont t'as envie, je veux bien te l'échanger. Contre une solide paire de fesses, ce qui me fait envie, c'est la plus solide de tes catins. Celle qui, depuis le début, me regarde avec l'air malin. À ces mots, l'entremetteuse comprit, et pour le triple du prix, c'est le cul de son garde du corps qu'elle lui vendit.
Merci beaucoup.
C'était très beau.
Ouais, c'était très beau. Quand même, hein? Étienne s'est découvert. Le papillon, non, la chenille est devenue papillon. Ouais.
Même, j'allais dire la même chose.
Oui, la même métaphore. Ça va, Toby?
Oh, oui, moi, ouais. Je triple.
Est-ce que tu crois aux fantômes?
Oui.
Est-ce que tu as déjà vu des fantômes?
Non, mais j'ai au moins 10 idées de films qui ont rapport avec des fantômes.
OK.
Fait que c'est pour ça que tu crois aux fantômes?
Ben, c'est ça.
Ça te stimule.
Parce que t'aimes la vérité. Fait que...
J'aime ça en tabarnak.
Ouais, c'est ça.
Ben, dans mon dernier film, Soirée de filles, mon avant-dernier film, en fait, j'avais une joke de sida fantôme. Fantôme sidéen.
Oui, oui, je m'en souviens. Oui.
Puis je trouve que c'est une excellente joke. Je sais pas, ces deux mots-là sont rarement ensemble.
C'est vrai.
Est-ce que c'est un sidéen qui est mort puis qui est devenu un fantôme ou c'est un fantôme qui a pogné le sida après?
Ben là, ça, c'est une question existentielle.
OK.
Tu sais, parce que je me dis. Genre, mettons Casper. Moi, je me suis posé des questions sur Casper. Je me suis dit, il n'y a pas de cheveux. Là, je me dis, il y a peut-être. Là, je me dis, c'est ça, il y a peut-être
le
sida.
Cancer.
Mais là, je me suis rendu compte que quand t'as le sida, tu perds pas tes cheveux.
Non, c'est ça. Fait que c'était le cancer que tu voulais dire.
Là, je me suis. Pendant deux mois, j'étais comme, hey, il y a sûrement le sida. J'ai une idée de génie. Puis là, après deux mois, je me suis rendu compte que quand t'as le sida, tu perds pas tes cheveux.
À moins que tu fasses aussi de la calvitie en plus d'avoir le sida.
Casper, c'est sûrement un leucémique qui a pogné ça jeune parce que Dieu voulait le punir parce que dans une autre vie, il avait pas été cool.
Oui, ouais. Mais j'ai déjà vu des fantômes. En fait, une fois, j'habitais avec un gars qui s'appelait Rémi.
Rémi, on le salue.
Salut, puis, Rémi. Qui est dans la salle, justement, en ce moment, Rémi Vanlapierre.
Ça veut dire que lui-ci, il avait un fantôme.
Oui, oui, oui. On a eu une expérience assez fucked up avec des fantômes.
OK.
C'est que, genre, lui, il travaillait de nuit. OK, ben je sais pas c'est quoi son travail, je sais pas qu'est-ce qu'il fait.
La nuit, il est parti.
Mais la nuit, il est parti.
Ghostbusters, hein.
C'est ça.
OK, c'est bon.
Puis là, à chaque fois, je me réveillais, puis j'avais des marques sur mon corps. Genre, tu sais, là, j'ai regardé bien des documentaires sur des fantômes. Puis il paraît que dans des attaques vraiment violentes de poltergeist, t'as des marques sur ton corps.
Mais il était même pas capable de te réveiller vraiment violemment. Genre.
Non, mais c'est ça. Il faisait c'est comme, juste moi, je dors vraiment dur. OK.
Là, c'est genre demain, fantôme, demain.
Puis j'ai commencé à étudier le cas des fantômes, puis j'ai découvert le terme ectoplasme.
Ah, ben oui.
Je sais pas exactement c'est quoi, mais c'est un liquide qu'on retrouve souvent sur les cas de fantômes et de poltergeist.
Ouais, ouais, ouais.
Puis je me suis réveillé le matin, puis j'avais vraiment mal partout, surtout au cul. Puis j'avais de l'ectoplasme sur le dos. Là, je sais pas. Non, mais je ne savais pas ce qui se passait.
Ouais,
je
ne savais vraiment pas ce qui se passait. Tu ne le sais pas encore, d'ailleurs.
Non, je ne sais toujours pas. Mais ce qui est vraiment étrange, c'est qu'une nuit, je me suis réveillé la nuit. Puis j'étais comme... Tu sais, moi, je dors vraiment dur. Mais cette nuit-là, je me suis réveillé. Puis j'étais dans un état de semi-rêve, semi-réalité. Puis j'ai vu un fantôme. J'ai vu le fantôme vraiment clairement. Puis il ressemblait comme deux gouttes d'eau à mon coloc. Genre, mais vraiment... Pareil. La même voix, la même face, tout.
Ouais. Puis il m'a dit... Tu as pensé qu'il était mort?
Non, mais je me suis dit, tu sais, c'est une grosse coïncidence.
Ouais.
Mais je me suis dit que le fait que je me suis réveillé le matin avec l'ectoplasme dans le dos, puis que j'avais mal au cul, puis que le fantôme ressemblait à mon coloc, c'est une gigantesque
coïncidence. Malentendu, ben oui.
Mais je vais faire un film là-dessus.
Ben oui, c'est ça. On salue Rémi, d'ailleurs.
Il est dans la
tête. Salut Rémi, on va le pogner, cette petite fantôme-là. C'était ce fantôme-là, man. Il a gâché ma vie pendant un an. Puis c'était là un an que j'ai vécu avec Rémi. Mais on va le pogner, là, ce fantôme.
Est-ce que t'es con? On est prêt pour le prochain, je pense. Oh, ouais.
Ça va bien, tout le monde? Salut, Tommy. Salut.
Salut, Jonathan. Salut,
Bruno.
Content de t'avoir.
Salut. Oui. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, c'est une nouvelle sorte de chronique qui va s'intituler « Mes observations sur la pub ». Ça va être le fun. Par applaudissement, il y a combien de monde dans la salle qui ont déjà eu des discussions spontanées sur les assurances-vie? OK.
Non, j'ai déjà eu des discussions spontanées sur les pubs d'assurance-vie qui étaient vraiment connes.
Ouais.
Mais jamais sur le sujet des pubs.
Non, c'est ça. Tu sais, c'est ouais. Tout le temps du monde qui sont dans un café ou à pêche puis qui se mettent spontanément à parler d'assurance-vie.
Ouais.
Tu sais, tu te rappelles-tu de ce qui est arrivé à Jean, sa pauvre famille, il n'y avait pas d'argent. Toi, t'en as-tu une assurance-vie? Connais-tu telle affaire?
On jase.
Tout le temps de même.
On jase.
Puis par applaudissement, combien de personnes l'ont trouvé la marque concurrente à l'épicerie? Oui, je... Tout le monde parle de la marque concurrente, là. Tu sais, c'est le produit nettoyant qui nettoie ton bain, mais pas trop. Ça, c'est... Ah, je regardais ça cette semaine, là. Je pense que c'est la pub « Les producteurs de volailles du Québec ». Puis la fille, elle arrête pas de dire « Moi, quand je veux être grande, je veux être comme mon papa ». Puis ça finit qu'à la fin, elle dit « Maintenant, je suis comme mon papa, puis je produis je produis de la volaille ». Moi, j'aurais trouvé ça drôle qu'à la fin de la pub, elle dit genre, elle a changé de sexe, puis elle dit « Je vous l'avais dit que je voulais devenir comme mon papa ». Hey, cette semaine, j'ai finalement trouvé la pub de la Batte 50 que je cherchais avec Patrice Lécuyer qui nous parle de la marmotte qui annonce le printemps.
Oh,
qui c'est qui se rappelle de ça?
Oh, ah, c'est
ouais.
La honte.
La marmotte, puis tu sais, finalement, il se demande si la Batte 50 va voir son ombre. Puis finalement, la Batte 50, elle voit pas son ombre parce qu'elle a pas d'yeux. C'est
ouais, un grand moment. Grand moment télévision. Dans ce temps-là, Patrice Lécuyer, à sa défense, il savait pas encore qu'on était pour être vraiment tanné de le voir partout.
Il faut y donner ça. C'est, ouais. Hey, en m'en venant ici, pendant que j'écrivais ma chronique, je trouvais qu'il y avait de plus en plus de compagnies qui utilisaient des jeux de mots. Tu sais, comme, les pires, c'est les compagnies de déjeuner, les compagnies de restaurants à déjeuner, genre Eggs. Il y en avait un, c'est Eggs Cité. Je savais pas si c'était un restaurant à déjeuner ou un sex shop. C'était comme pas clair, je suis pas rentré.
Il y en a un coin, Saint-Laurent puis Jean-Talon, ça s'appelle Legs Eux.
Legs Eux.
Fait que t'es supposé comprendre les Eux, mais c'est Legs Eux. L'EGGS.
Moi, je voulais m'en partir un qui s'appellerait le Deg Eux.
Deg Eux, ouais, j'avais peur. Puis j'ai vu aussi un camion de rénovation, il était marqué périmètre, mais péri, M-A-I-T-R-E, tu sais, comme le maître du périmètre.
Péri, ouais, non.
Moi, j'ai décidé, ouais, c'est... Moi, j'ai décidé qu'à partir de maintenant, je considérais plus ces marques-là comme des jeux de mots, mais comme des fautes d'orthographe.
Oh, c'est...
Ah, par applaudissement, qui c'est qui savait que Guylaine Tremblay avait joué dans une pub de Cordon Bleu en 91? Je pense que même elle le sait pas. Sinon, en terminant, j'ai une pub de SO où est-ce que le petit gars, il dit à son grand-père, qui est aussi l'agent de Marc Gagnon dans l'ancien compte, il dit à son grand-père, « Quand je vais chez SO, je vois toujours un tigre. Est-ce que toi, tu vois un tigre? » Moi, les hallucinations à station-service, je trouve pas ça rassurant.
Non, vraiment pas. Chris, il n'a pas de tigre.
Ça sent bon aussi, hein?
Voyons donc. Finis ton shooter de SO et on va repartir. Calice.
Ben, merci beaucoup.
Merci à toi. Merci. Hey, merci. Jonathan Simon, mesdames, messieurs. Oui. En fait, ça m'a fait penser à... Moi, de la publicité, j'en ai vu en tabarnak, tu sais, puis c'est jamais parce que j'aime ça. Et présentement, il y en a une qui passe à RDS, et c'est pour Sonnet Insurance. Puis là, ils réinventent l'optimisme, eux autres. Là, il y a comme une fusée spatiale qui envoie un thumbs up dans l'espace. Puis c'est vraiment produit là, à la Michael Bay. C'est big. Là. Il y a 80 personnes dans une salle qui regardent un écran. Il y a plein de monde dans toutes sortes de settings qui regardent le pouce décoller dans l'espace. Mais Chris, ça sert à rien d'envoyer un pouce dans l'espace. Ça sert à rien. Là. Le pouce, il vole, puis... Là, il va passer à côté de la lune. Tu sais, le show, il est fini. Les autres, ils appellent ça de l'optimisme. En tout cas.
Crise de perte de temps.
Hein? Ah, c'est incroyable. Puis en plus, considérant que la navette spatiale est de loin le moyen de transport le plus polluant, je pense que la compagnie d'assurance a manqué le coche et aurait vraiment pu faire quelque chose d'autre pour nous représenter l'optimisme.
Exactement.
Que d'envoyer un thumbs up dans l'espace. Là. On fera pas Omicron. On peut pas faire Omicron, il est pas terrien Omicron. En tout cas, c'est là-dessus que on passe au prochain.
Crème, c'était pas prêt.
À date.
Un homme de Fort Lauderdale en Floride affirme qu'il croyait donner un lift à sa fille pour aller à une entrevue d'emploi à une banque alors que celle-ci avait plutôt l'intention de la cambrioler. Sa fille, Chelsea Wilson, est entrée dans une branche de la banque TD demandant toutes les coupures de 50 et 100 $ à la caissière, repartant avec 300 $. Lorsqu'elle est revenue dans la voiture, son père affirme avoir supposé que l'argent était une avance sur son salaire. La femme a été arrêtée quelques heures plus tard à sa résidence et a avoué avoir volé 4 autres banques récemment. Donc, ouais, c'est ça. Ça en est bien sorti jusqu'à date.
Ben oui.
Elle s'en est servie pour acheter une de l'épicerie, il paraît.
Peut-être. Ah, ouais. Ben là,
c'est non,
ça.
C'est ça qu'elle a dit.
Ouais. Puis là, c'est comme, là, ouais, en tout cas, too bad pour elle. C'est ça.
Voilà.
Next. Next.
Une femme de Titusville, toujours en Floride, a décidé d'utiliser un aspirateur de lave-auto afin de nettoyer l'essence qui avait coulé dans son coffre arrière quand le prévisible est arrivé. Une étincelle dans l'aspirateur a causé une explosion, surprenant la femme qui s'en est sortie indemne. Elle aurait ensuite quitté les lieux, laissant l'aspirateur en flammes derrière elle.
Ça devait vraiment être une belle photo.
Il y a une vidéo, en fait, que
ah ouais,
vous pouvez aller voir sur les internets si vous êtes intéressé. Juste en Floride. Et on revient au Canada. Après s'être fait arrêter par un officier de la gendarmerie royale de Edson en Alberta, un homme a demandé à son passager de prendre sa place au volant comme il était sous. Malheureusement pour eux, l'autre homme était également sous et le policier a vu la manœuvre. Après avoir fait passer un alcotest aux deux hommes, le policier les a arrêtés tous les deux pour conduite en état d'ébriété.
L'alcool aurait...
Oui, effectivement.
Merci beaucoup, Bruno Corbin, mesdames, messieurs. Yeah. Ben oui. Là, on arrive à la fin de 70%. On va passer au volet VJ de notre soirée, sortir les projectiles. Élise va faire son set de VJ. Juste avant, notre invité, Toby Garceau, tu vas nous présenter quelques-unes de tes créations.
Oui, dans le fond.
Parle-moi un petit peu du bloc de 15 minutes que tu nous as amené.
Dans le fond, il y a deux petites vidéos qui vont montrer ce que j'ai fait avant. Puis, vous allez voir 12 minutes de mon nouveau film Rôle de soutien. Donc, c'est quasiment la moitié du film.
Colin.
Mais j'avais le goût de le partager avec vous. Je sais que c'est un drame. Je sais que c'est un film. Tu sais, mais j'ai été inspiré quand j'ai vu ta quote sur le site de Douteux. Comme quoi, tu disais, c'est pas. Douteux, il y a comme un misconception que c'est pas un éloge de la médiocrité, loin de ça. Tu sais, c'est vraiment juste. Voir plusieurs facettes de l'art et le talent émergent et tout ça. Fait que j'ai le goût de le partager avec vous. Fait qu'il y a à peu près 2-3 minutes qui sont plus les comédies que je fais du passé. Puis il y a 12 minutes qui sont les 12 premières minutes de Rôle de soutien.
Colin.
Puis Rôle de soutien, c'est un film que j'ai mis. Que ça fait 8 ans que je pense à ce film-là. Puis ça fait un an que je travaille dessus de manière technique, là, de manière comme que je le réalise, puis je le montre, puis tout ça. Puis j'ai eu des acteurs quand même de prestige dans le film. J'ai eu Marie-Chantal Perron qui a accepté de jouer pour rien dans le film.
C'est gentil.
Elle a déchiré le chèque devant moi.
Oh, c'est gentil.
Fait que c'était vraiment, vraiment, vraiment cool. Puis je suis vraiment excité de partager ça avec vous. J'espère que vous allez aimer ça. C'est un film qui vient de mon cœur. Puis c'est vraiment différent de ce que j'ai fait avant, mais c'est que depuis un an, depuis que j'ai commencé à réaliser ce film-là, je me suis découvert un style, tu sais, comme tout réalisateur trouve son style visuel.
Là, c'est fait, là.
Ben là, c'est comme, avant, je travaillais avec des storyboards, je travaillais avec des shotlists, tout ça. Puis maintenant, je travaille en lumière naturelle seulement, caméra à l'épaule. Puis avant, j'étais plus un cinéaste de forme, là, je suis plus un cinéaste de fond. Puis j'aime vraiment la direction d'acteur, j'aime vraiment comme le côté humain du cinéma. Fait que ça a vraiment changé. Puis j'ai le goût de faire des films d'horreur, des films d'action, mais tout le temps avec la même volonté de faire du cinéma qui est vrai, qui est proche des émotions.
Il y a un chien qui est au bat.
Exactement, ça va être la petite...
Merci beaucoup, Toby Garceau, mesdames, messieurs. On peut te suivre sur Facebook s'il y a des affaires nouvelles qui s'en viennent.
Bien sûr, puis j'ai une compagnie de production qui est en train de se produire, qui va arriver, qui va être imminente. Donc, on essaie de faire, tu sais, avec toutes les technologies qu'il y a en ce moment, je trouve que le potentiel d'avoir une nouvelle vague dans le cinéma québécois, puis il y a le potentiel de faire de quoi de fou. Puis le site va arriver bientôt, puis je vais vous en donner des nouvelles. Mais ça s'en vient.
Merci beaucoup. Toby Garceau, mesdames, messieurs. Merci à tous les collaborateurs. Merci au technicien Alexandre. Merci au duo Cardinal Terrien. Merci Bruno. On baisse l'écran et on écoute les créations de notre invité.
Des annonces de char pour plusieurs, des barbeaux c'est des œuvres d'art. Faut pas rester en cabané, ton écran va finir par te rendre certain.
Je le vois dans tes yeux, faut que tu trouves ça douteux. Je le vois dans tes yeux, faut que tu trouves ça douteux.
Les lundis douteux, chaque lundi depuis 10 ans, au pub Brouhaha, 5860 avenue de Lorigné. Chaque semaine, un film louche, un humoriste de la relève, l'enregistrement en direct de 70% et un set de VJ invités. Les lundis douteux, apporte ton sourire et tes cousines, puis dis-leur que c'est toi qui paies parce que c'est gratis.
Hey! 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 Bonsoir tout le monde. Pour ceux qui dormaient, vous êtes maintenant réveillés. Alors, on est au moment de la soirée où on vous dit qu'on est un organisme à but non lucratif. Donc, on est... Merci. Fait qu'on a des... cossins à vendre, voilà. Des VHS, mais pas n'importe quel VHS. Hey! 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 Il y en a un cas ici, là. Je veux ton argent, ferme ta gueule, puis écoute-moi. Merci. Ouais, monsieur. Alors, on commence avec pas n'importe quoi. Texas Chainsaw Massacre. Ça, c'est le remake. Des meilleurs effets spéciaux, hein? C'est comme les prequels de Star Wars, c'est bien mieux fait. Ensuite, on a The Usual Suspect. un hostie de bon film, la première fois que vous le voyez. Ensuite, on a une autre version d'un hostie de bon film de Usual Suspect, qui est aussi un très bon film, la première fois que vous le voyez, mais c'est deux versions différentes, OK?
Vous allez le voir deux fois.
Puis ça va être deux crises de bonne foi. Et ensuite, on a... Non. Le non, écoutez, là. Bruno Corbin va bêter sur l'eau juste à cause de l'enfant sacré du Tibet, version française. Ça, c'est la version où vous avez Eddie Murphy qui arrive dans une... Voyons, tabarnak! On en a encore ici! Hey! M'a tiré dans la tête, m'a allé te fourrer dans le trou! Hey, moi, ils mettent à exécution, là. Ça fait 4 ans que j'ai pas fourré, moi, man. N'importe quoi. Si tu penses que je suis pas game, j'ai des nouvelles pour toi, tabarnak. OK. Donc, je veux une pièce pour ça. Qui me donne une pièce?
Une pièce.
Qui me donne deux pièces? Deux pièces. Qui me donne trois pièces? Trois pièces. Qui me donne trois pièces?
Trois pièces.
Trois pièces. Corbin me donne trois pièces. Il a dit qu'elle est bête, il a rempli sa promesse. Trois pièces une fois. Trois pièces deux fois. Je niaise pas avec la POC. Trois pièces vendues. On va prendre les trois pièces à Corbin avant, moi. Parfait, OK. Maintenant, comme on en a parlé à 70% ce soir, un item de mon enfance, un hostie de casse-tête de passe-partout, tout décrissé, il a été testé. Mint! Il y a tous les morceaux, il a été testé. Qui me donne une pièce pour ça?
Une pièce.
Qui me donne deux pièces? Deux pièces là-bas! Ta gueule. On veut 3 piastres. On veut 3 piastres. 2 piastres une fois, 2 piastres deux fois, je leur dirai pas 3 fois. Hey, 3 piastres. Qui me donne 4 piastres pour le casse-tête de passe-partout? Un morceau de mon enfance. 4 piastres une fois?
3 piastres.
3 piastres, OK. Où ça qu'il y a 4 piastres, les hosties spot, ma veille? OK, 4 piastres là-bas. OK, 4 piastres. Qui me donne 5 piastres? 5 piastres. 4 piastres une fois, 4 piastres deux fois, 4 piastres vendues, je niaise pas. OK. JS? Bon, OK, j'ai perdu mon animatrice. Oh, c'est Tommy qui fait le bouncer à soir. Wow, j'adore ça. Oh. Ça me fait un multi-tool. C'est un outil multi-usage Zelda. Avec ça, c'est un porte-clés. Tu débouches des bouteilles de bière, ça grind ton pot. Je sais pas, moi, c'est quoi ça fait? Qui me donne une pièce pour ça? Je veux une pièce pour ça. Hein? Une pièce. Qui me donne 2 piastres pour un Zelda Multi-Tool? 2 piastres? 3 piastres? 2 piastres. Qui me donne 3 piastres? Je veux 3 piastres. 3! 3 piastres là-bas? 3 piastres? Qui me donne 4 piastres? Je veux 4 piastres! 4 piastres, qui me donne 4 piastres? 3 piastres une fois? 2 fois? Quoi? 4 piastres, OK. 4 piastres, qui me donne 5 piastres? 5 piastres, 5 piastres une fois, 5 piastres deux fois, 5 piastres. 5 piastres, mais il faut du change. 5 piastres, on va avoir du change, inquiète-toi pas, man. Pour 5 piastres, je mange autre chose que de la Steakcraft Dinner. 5 piastres une fois, 5 piastres deux fois. 5 piastres vendus. On félicite le monsieur. Il a cassé un mauve. Oh, maintenant, le clou de la soirée. Un esti de casselette d'un vase. Par contre, si vous achetez le esti de casselette de vase, on vous donne en prime.
C'est Kevin.
Mel Gibson. Mel Gibson. C'est-tu Mel Gibson? Ah, c'est Kevin Costner, le gars qui jouait dans The Postman. L'autre bon film qui a fait aussi l'affaire avec les joueurs de baseball, là, un chant de rêve, Fields of Dreams. Construis-les, ils viendront.
des Bois aussi.
Il a fait Robin. Qui d'autre qu'il y avait dans Robin des Bois qui battait sa femme? Christian Slater, qui jouait Will Scarlett.
Non, c'est le bout qui battait sa femme que je trouvais vraiment important.
Il y avait... Oui.
Est-ce que Kevin Costner battait sa femme aussi?
Il est pas gay, lui. Je pars une rumeur à soir. Est-ce que Kevin Costner est gay? 5 piastres! On a 5 piastres une fois! Kiki Muff, non. Kiki Muff. Kiki Muff. 5 piastres pour ça, à part Godette. 6! Qui a dit 6? Godette a dit 6. L'autre Godette derrière a dit 6. T'as dit 6, ta gueule. Man, hey, non, non, moi je m'excuse, je vais fourrer n'importe qui soit un douteux ou pas. Tu me dois 6 piastres. Y a-t-il quelqu'un qui m'offre 6 piastres? 7 piastres. 7? 7 piastres. Tu viens de sauver 7 piastres à un BS, mon vieux, là. Non, mais comment décrire Kevin Carmen? Non, j'ai mélangé-tu?
J'ai...
7 piastres. Qui m'offre 8 piastres? 8 piastres. 8 piastres n'importe où. Y a-t-il une main qui se lève? Y a-t-il un warrior quelque part? 7 piastres une fois. 7 piastres deux fois. Vendu, je niaise pas! Merci tout le monde! On a une playlist du tonnerre. Merci à Élise. Merci à Eric. Alexandre Larocque, notre technicien. Là, il y a le petite godette qui va essayer de me voler le micro pendant mon heure de gloire. Il est mieux d'avoir envie de se battre. De quoi tu nous parles ce soir, Tommy?
On va parler de l'excellent Tank Girl.
Une main d'applaudissement pour Tommy, tout le monde.
Et une pour Étienne. Douteux.org, on est là surtout pour vous montrer des affaires que vous auriez peut-être ou sûrement pas vues. Ah, l'excellent Xavier va passer le Yuki. N'hésitez pas à insérer quelconque change qui vous traîne dans la poche, dans son orifice qu'on juge d'en arrière, voilà, postériorisé. Merci Xavier. Donc, je parle de l'excellent film de ce soir. Moi, pour moi, c'est un plus 7,2. Je trouve que le film, c'est une excellente adaptation d'un comic book australien déjanté, et j'adore utiliser ce mot-là. Il y en a d'autres, et ça, c'est la majorité qui voit dans ce film Ice-T en kangourou et Malcolm McDowell qui suracte dans un setting post-apocalyptique au décor déficient. À chacun son étude, ce qui est sûr, c'est que le film de ce soir, c'est très rare qu'il y ait des êtres humains qui en parlent. Là, il y a un être humain qui en parle avec un micro devant vous. Le film de ce soir, depuis 3 ans, là, si je fais le total d'êtres humains nouveaux qui ne l'ont jamais vu, sur Terre, moi, je dis qu'il y en a 6. Qui a déjà vu le film qu'on va écouter maintenant? Il y a quelques personnes, et j'ai vraiment l'impression qu'on va dévierger Tank Girlement, et elle aimerait beaucoup ça, l'héroïne, que j'utilise ce lexique-là. On va vous dévierger Tank Girlement. Puis on va battre le record des 5 dernières années. Le long métrage est quelque chose avec plusieurs bons concepts. C'est personnel dès le début, mais c'est correct. Ça me tente même plus de m'entendre parler. C'est dire, j'ai très hâte qu'on passe au long métrage. Mon nom est Tommy Godette. Je vais être assis là dans le coin bientôt. On est là lundi prochain, et avant que je m'en aille, j'aimerais que... Bonne fête, Élise! Bonne fête, Élise! Bonne fête! Bonne fête! Bonne fête! Bonne fête. Woo!
fourré dans ta tête. Et là-dessus, on écoute un long métrage qui n'a pas été assez chanté à mon goût. J'adore le bout qu'ils vont chanter du jazz, puis qu'il y a comme un bout de comédie musicale. Dans pas longtemps, j'aurai plus le micro et on va pouvoir écouter la version française de Tank Girl de 1995. J'suis à Val d'Or dans la cave chez mes parents. Yeah, baby!
Merci, Jean Perron. Si vous voulez être informé au niveau du sport, écoutez 70% et vous allez tout savoir que... En tout cas...
Le sujet du jour, c'était « On n'est plus capable, on prend un appel. » Colin, hein? Et déjà, dans le temps, la radio poubelle de Québec, c'était drôle. Je me rappelle, moi, la première fois que Jeff Filion a fait parler de lui, c'était en 2004. Et il avait dit des affaires vraiment pas correctes à propos d'une journaliste. Et je pense qu'il avait dit aussi la phrase... Claude Rajotte, il est tellement gay, il s'est fait défoncer le cul tellement que ça a l'air d'une vulve à cette heure, je pense. C'était, il avait déjà dit ça dans le temps. C'était quand même le début d'une grande épopée de laquelle on a encore des restants qui suintent ici. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Mon nom est Tommy Godette, fier animateur, votre hôte de la soirée, du meilleur spectacle gratuit du lundi au monde. On est très content de vous avoir avec nous live depuis le Brouhaha 5860 de Lorimier à Montréal, qu'on remercie beaucoup la place d'ailleurs, très sympathique de nous accueillir.
Là, je pense qu'on va probablement...
Il va avoir un long métrage qui va terminer la soirée, et le long métrage s'appelle Tank Girl.
Une odeur de garçon, là. Ça sent le gaz, c'est pas sécuritaire.
Ça sent pas le gaz?
Ben oui.
Ah, c'est toi.
Je pense qu'on est en train d'entendre l'audio excellent de... Ouais, c'est fini, on n'en parle plus. On va écouter le long-métrage qui s'appelle Tank Girl. Ici, à Douteux, on aime ça plus déterrer des affaires et y aller de variété que de taper sur des affaires de qualité... franchement douteuse un petit peu plus. En fait, ce long-métrage-là, il est très aimé de certaines personnes et il y en a d'autres qui voient ça à moins 6, moins 7. Moi, je me suis dit, c'est un plus ou moins, on va être diverti. Pour ma part, j'aime beaucoup le film, on va pouvoir en parler un petit peu plus tard. Ça implique un projet québécois qui va réussir dans cette diégèse-là. Power Corporation domine le monde, donc ça va être un film un petit peu particulier duquel je vais vous entretenir plus tard. Juste avant, ça va être le VJ7 de ma copine Élise, que c'est sa fête. Oui. Oh oui, c'est sa fête. C'est 31 ans, c'est capoté. On va y revenir là-dessus aussi tantôt. Sinon, juste avant, on va avoir un 70% de qualité avec un invité un petit peu spécial, un cinéaste de la relève aux idées florissantes. L'excellent Toby Garceau est avec nous pour 70%. Et pour commencer la soirée, l'inénarrable, un humoriste corrosif qui dit tout haut ce que tous les autres pensent tout bas. L'excellent GF Dénommé, s'il vous plaît, applaudissez, mesdames, messieurs.
Ah, on applaudit Tommy, come on. Applaudissez-le. Plus fort que ça pour Tommy, come on, il est vraiment fort. That's it. C'est so weird. Yes. Je vais faire un numéro que je pensais pas faire vraiment dans ma vie, mais vraiment comme je suis amoureux. Pour de vrai, je suis vraiment en amour, pis c'est cute au bout. Ce que je vis, c'est plus cute que le Titanic. Je souhaite ça à tout le monde. Moi, vraiment, là, Christ que j'aime boire. J'aime vraiment boire dans la vie. Moi, j'aime tellement boire que j'ai été obligé d'arrêter de boire, mais juste parce que je voulais faire une rechute. Juste pour ça. C'est juste... Comme tout le monde me demande, c'est quoi un alcoolique? On dit souvent qu'un alcoolique, c'est quelqu'un qui boit le matin. Moi, je prends pas de chance, je me lève l'après-midi. Je pense que c'est dans mes gènes de boire, pour vrai, parce que mon père, il est vraiment alcoolique. N'importe quel alcoolique que t'as en tête, mon père le torche. OK, comme moi, dans le cours d'école, quand j'étais petit, j'étais comme, ah, mon père est plus sous que le tien. C'est plus ça. C'est ça. Mais après, tu sais, les alcooliques, en général, ils boivent soit parce qu'ils ont vraiment de la peine, parce qu'ils sont en crise, ou parce qu'ils ont trop de fun dans la vie. Mon père, il boit pour n'importe quelle émotion. C'est juste, mettons, il s'ouvre un pot de beurre de pinot, il est comme, ouais, c'est une bière! Il finit le pot de beurre de pinot, il est comme, ouais, deux bières! Mettons, il pleut, il prend une bière, il prend son char, il prend une bière. Tu sais, un héros moderne. Un modèle. Un modèle de la société. Mais le plus drôle, c'est quand il boit,
quand il est fâché. Parce qu'il sauve une bière quand il est fâché. Puis là, ça le fâche de boire. Fait qu'il s'en rouvre une autre. Puis là, il est en tabarnak. Fait qu'il se pogne un scotch. Puis là, il jase. Il jase. Moi, je me rappelle d'une fois que mon père, il est venu me jaser. Il était vraiment saoul. Il était comme, si JF, toi, je t'aime, man. Toi, avant, tu vivais dans mes couilles. Je t'aime, man, mon gars. Je suis content que ta mère t'aille pas avalé. Je suis vraiment content. Chris, sur ce, joyeux anniversaire, fiston. C'est pas tous les jours qu'on a 6 ans. Tu sais, ça fait peur, man. Ça, mais tu sais, j'en veux pas à mon père pour ça, parce que c'est pas de sa faute. T'sais, mon père, il a été élevé par ma grand-mère. Puis ma grand-mère, tu sais, elle est toute cute et toute petite. Mais c'est elle, l'homme de la famille, là. Okay? Tu sais, elle a comme 5 guns chez elle. Elle a un 12, genre un fucking 12. Tu sais comment elle appelle ça, un 12? Elle appelle ça un fermeur de gueule, man. Ton voisin fait du bruit, tu pognes ton dos, tu fermes sa gueule, man. Le chien aboie, tu fermes sa gueule, man. Ta blonde veut changer les rideaux, tu changes les rideaux. Tu fermes ta gueule, OK? Ma grand-mère, elle habite dans une vieille maison, dans la fucking forêt, à Thetford Mine, man. Tu sais la maison dans les films d'horreur où t'as la blondinette au gros boobs qui se fait tuer? Ben, dans la vraie vie, c'est ma grand-mère qui a tué, man. Puis quand j'étais petit pis que je dormais là, j'avais peur, man. J'étais comme, grand-maman, il y a un monstre qui monte dans l'escalier. Puis elle, de l'autre bout de la maison, elle me répondait, non, il y en a deux, va te coucher. J'étais comme, ça fait peur, man. T'sais, pas besoin de te dire que pour vrai, j'ai passé les Noëls les plus redneck de l'histoire du Québec, là. T'sais, moi, j'étais tout petit, j'étais comme, la magie de Noël. Grand-maman, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Puis elle était comme, n'importe quoi qui a quatre pattes pis qui marche dans la cause. Wow! Oh, pis tu sais, j'ai une cousine qui est tout le temps là à Noël, pis elle est dégueulasse. Honnêtement, c'est vrai, une cousine dégueulasse, elle fume plus de cigarettes qu'elle respire d'oxygène. Honnêtement, là, ça va dans... J'ai fait rire la cuisine, je pense. Ils sont comme, tabarnak! Non, sérieux, pis elle fume beaucoup, pis n'importe quoi qu'elle touche dans sa vie, ça devient jaune. C'est n'importe quoi. C'est pour ça qu'à Noël, on capote quand elle fait les patates pilées. T'as juste mon grand-père un peu pas vite qui est comme, oh, sont bonnes tes patates au curry. Il comprend rien. Il comprend. Non, pour vrai, pis t'as mon père qui est là, lui, il gère le foyer avec sa tequila. Il est comme, un pour toi, un pour moi, un pour toi, un pour. T'sais, j'ai tout le temps vu mon père soudain, pis tout le temps vu mon père scrap. Pis moi, quand j'étais petit, je pensais que c'était ça, devenir un adulte. Tu sais, moi, je pensais qu'être un adulte, c'était vomir discrètement dans les plantes quand tu t'en visites chez quelqu'un. Là, je suis pas saoul. Je suis pas saoul aussi. Tu sais, je pensais... Fait que moi, à 8 ans, je me pratiquais à être saoul. Tu sais, je me levais le matin, je me calais 4 pintes d'eau juste pour me pisser dessus au comptoir de cuisine. C'est comme... Ah ouais, la bonne femme, c'est demoiselle un autre. Et comme Jean-François grandit un peu. Et ça, je fais, c'est d'avoir une autre pinte. Une pinte de lait, si je m'en connais. Ah ouais. Après ça, je me faisais des fausses promesses de genre plus jamais de lait 3% à 9h le matin. Puis après ça, je m'en allais m'endormir à côté de ma cousine dégueulasse. Puis le lendemain matin, je me forçais à avoir des vrais regrets comme un adulte. Fait que maintenant, j'ai 22 ans, je suis moyennement un adulte, je suis plus un alcoolique. Finalement, c'est plus... Mais je suis un alcoolique responsable, par contre. Comme, mettons, je me réveille, puis je suis saoul, je vais aller travailler pareil. Parce que en plus d'être un alcoolique, moi, je suis vraiment bon à cachette, parce que mon boss me trouve pas! Il me trouve pas. Non, mais tu sais, c'est pas comme si j'avais une job que j'ai pas le choix d'être sob, là. Tu sais, c'est pas comme si j'arrivais à un job de genre, oh, les gars, non, ça file pas, trop de tequila hier, non, je suis encore saoul, je pense, bon. Anyway, scalpel, c'est pas ça ma job. Ça, je pense que c'est drôle, mais je vais refaire le wording. Tu penses que... je sais pas, là, mais... Je vais avoir travaillé, celle-là. Non, mais c'est ça, fait que je suis un alcoolique responsable, puis je trouve que c'est normal pour le monde de mon âge d'avoir un problème d'alcool, parce qu'on voit trop de trucs fucked up en peu de temps. Tu sais, on voit plus de trucs fucked up en une journée qu'un monsieur dans les années 60 en une vie. Sérieusement, c'est foutu dans les années 60, tu disais, si monsieur Monette, il y a un nouveau tracteur, esti, on va, c'est malade, ça faisait le buzz de la semaine. Maintenant, en une journée, tu peux pratiquement voir un sans-abri qui chie par terre, après ça, un doute qui boit de la vodka par ses yeux. Après ça, tu t'en vas sur Facebook, t'as un topo de, pour être cool, ça te prend des tatous de sauvage, une barbe de chasseur puis une chemise de bûcheron, mais faut pas que tu tues d'animaux, faut pas que tu manges de viande, faut pas que tu coupes d'arbres. Tu sais, tu comprends rien, là. Après ça, tu t'en vas sur YouTube, tu vois en 15 minutes l'Holocauste, puis juste après, un chat qui a peur d'un cocon. Fait
Qu'est-ce que tu fais après ça? Si tu t'en vas dans un bar, tu te dis des conneries puis tu te bois un whisky. C'est ça que tu fais. Merci tout le monde, c'est fini.
Thank you.